Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noëlle Tronchant, Dominique Borne et Bernard Vidiodi, bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors, trois chroniqueurs, trois films, je ne sais pas, parce que quelquefois on est tellement bavard qu'on n'en fait que deux. Mais enfin, on va essayer quand même d'en faire trois, c'est-à-dire Hors Saison, Cabrini et Karaoké. Commençons par Hors Saison de Stéphane Brisé, avec Guillaume Canet, Alba Schorschwacher et Sharaf Adoura. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour est-elle vraiment terminée? Ben oui, ça arrive. Mais certaines ne s'éteignent jamais. Et c'est le cas de Mathieu, qui est un acteur assez renommé et qui séjourne pour une cure en bord de mer. Vive la Normandie, c'est moi qui vous le dis. Et qui retrouve par hasard Alice, eh oui, ils se sont aimés il y a 15 ans, juste pour rappeler que certaines amours sont éternelles, et ça fait du bien, je vous recommande le film.
Salut.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va.
Tu fais quoi, toi?
Comment ça, qu'est-ce que je fais?
Dans la vie.
Je suis comédien.
Tu vas, c'est pas trop dur?
Ça va.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième?
Tu vois, le dossier classé.
Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus, en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien, en fait.
Un message pour vous a été déposé à la réception.
Allô?
Allô, Alice?
J'étais pas sûre de te contacter.
Non, je suis très heureux.
Mais je parle toujours aussi mal le français.
Non, mais zéro progrès, c'est quand même fou.
Toi?
Tout va pas bien, mais le tout va bien.
Qu'est-ce qui ne va pas dans le tout?
Tu vois, ça, les golfs, là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on a été ensemble?
Il sait qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais?
Vous avez reconnu la voix de Vincent Delerme qui, qui signe la musique de Dominique Borne.
C'est assorti d'ailleurs au film. Hein, faut dire. Ça pourrait s'appeler aussi bien Hors du temps ou Morne plage. On est un petit peu dans ce ton-là. Lui, il est tout de même déprimé. Il n'est pas bien parce qu'il a refusé d'aller sur scène pour jouer une pièce, alors que c'est un acteur un peu connu déjà. Et elle est mariée, elle vit avec un homme qui ne la comprend pas, donc tous les deux sont un peu esselés, sont un peu à côté de la plaque. Hein. C'est deux marginaux d'une certaine manière qui vont se retrouver parce que 15 ans auparavant, en effet, ils se sont connus. C'est lui qui l'a quitté et tout d'un coup, il se découvre, c'est ça qui est intéressant dans le film, parce que cette redécouverte, c'est plutôt la découverte de l'autre qu'on avait laissé passer, quoi. C'était le présent, un parfum de passé et de rancœur, mais ils se parlent comme s'ils venaient de se connaître. C'est la grande originalité du film et des deux personnages dans cette petite station qui est vraiment à l'image de l'histoire et des personnages, qui est désolée, déserte, tout est empreint de nostalgie et de désespoir calme. Voilà, le ton est languide aussi, c'est un film très languide, qui est pas très long, mais qui est très lent, et pour une rencontre qui, a priori, est sans avenir, mais on ne sait pas forcément.
C'est leur rupture qui les a rendus à tône, finalement.
Oui, c'est ça, oui. Alors, je sais pas, moi j'ai l'impression que Brisé soupèse les blessures du temps, les inconséquences d'une relation passée. Et il suit ses personnages, alors je vais faire plaisir à Bernard, parce que dans les tête-à-tête, parfois, je vais retrouver certaines scènes d'un homme et une femme, dans les improvisations.
J'y ai pensé aussi, mais c'est beaucoup moins talentueux.
Oui, mais on peut y penser. On peut penser au tête-à-tête qu'on voyait dans un homme et une femme, un Trintignant à nous qu'aimer.
C'est un clin d'œil.
Puis c'est vrai qu'il y a aussi il y a l'ambiance, il y a tout ça. Et on peut penser à du Lelouch, c'est presque improvisé. On a l'impression que ça l'est, en tout cas, même si ça ne l'est pas. C'est vraiment la confrontation de deux malaises et de deux amours qui vont se raccommoder, peut-être. Voilà.
Le clin d'œil à Lelouch est obligatoire, parce que c'était le monument. Sur un homme, une femme, c'est un monument. Oui. Et là, on a un homme, une femme qui se retrouvent, qui étaient totalement atones après leur séparation.
C'est les face-à-face, oui.
C'est très joli. Moi, j'ai trouvé ça très joli.
Certains face-à-face, ils font penser, oui.
Marie-Noëlle, vous n'êtes pas une midinette comme moi, donc vous n'avez pas forcément marché.
Non. Je trouve l'exposition très réussie. elle intrigue, elle intéresse, il y a ses plans fixes, un peu étranges, l'arrivée d'un homme inconnu par définition, dans un lieu très chic et anonyme. Et on découvre par petites notations que c'est un hôtel, que le client qui arrive est célèbre, et que c'est même une thalasso, on découvre après.
C'est la queue de Quiberon.
Voilà. Donc le cadre est posé, et bien posé, très bien posé, mais après il va falloir le remplir, et c'est là que ça pêche. Étrangement, parce que cette suite de longs plans fixes, vide du simili Antonioni de province, c'est un peu dur à supporter. Et arrive la charmante Alba Rohrfacher. Alors là, c'est vrai qu'elle a beaucoup de charme, beaucoup de subtilité, de sincérité, elle est très touchante. Mais on voudrait que ces personnages aient de la substance, on voudrait entrer dans leur histoire, dans leur... Et on reste toujours à la surface, ils n'ont aucune intériorité.
Cette surface, c'est pas une expression de sincérité pour vous ?
Ah, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. D'abord, il représente quelque chose, chacun. Alors lui, il représente la réussite de la célébrité qui se fracasse un peu. Mais il échoue, il a peur d'aller pour la première fois au théâtre et il plaque tout le monde. Il n'a pas une considération pour tout ce spectacle qui s'effondre autour de lui.
Ah oui,
pour les gens, il pourra toujours, comme il est riche et célèbre, il pourra les payer, les dédommager. Mais un spectacle, c'est pas que des choses qui fonctionnent et des gens qui sont payés.
Il est à la dérive.
Oui, il est à la dérive, mais il ne pense jamais aux autres.
Ah bah non, les autres, pas à la
on
dérive.
Le voit. Bah, si, on peut être à la dérive à cause d'autres...
Oui, mais là, c'est à cause de lui-même.
Justement, il ne pense jamais aux autres. Il ne voit jamais son entourage. Ce sont des fantômes autour de lui. On voit passer un laveur de carreaux, etc. Il ne voit personne.
Ah oui.
Et donc, il est le vide incarné.
Totalement.
Et ce manque d'intériorité fait qu'on s'ennuie très, très vite. Et elle, qui a beaucoup de charme et pour le coup de une présence féminine très, très touchante, elle est emprisonnée dans une petite vie vide qui tourne en rond aussi. Donc tout ça n'est pas... reste vraiment... fallot, superficiel.
Fallot avec un F.
Fallot avec un F, fade. Et pour ma part, j'ai trouvé fort ennuyeux. Et on n'avance pas. On a cité Lelouch, mais si vous voulez voir...
Ce n'était pas forcément un compliment. Hein.
Oui, mais enfin, non, on trouve que Lelouch, en effet, est supérieur. Mais si vous voulez voir vraiment un très beau mélodrame amoureux, il faut revoir Sur la route de Madison. Mmh. Vous verrez ce que c'est qu'un plan qui a de la substance, de la consistance, même dans le silence et le non-dit.
Aussi, oui. Ouais.
Bernard.
Oui, c'est malheureusement la caricature d'un mauvais film français. C'est vrai que vous avez un couple d'acteurs dont la rigueur n'a d'égal que la pudeur. On les a cités, Alba Rohrfacher et Guillaume Canet. C'est vrai que les liens noués entre cette femme mariée et ce célèbre comédien sont délicatement dépeints comme le reflet d'un miroir sans teint des caprices du destin. Et ça, c'est plutôt intéressant, sauf que c'est montré de manière très superficielle dans le film. Il y aurait aussi quelque chose de presque amusant, cette peinture satirique de la célébrité constamment photographiée. Mmh. Mais c'est au début, et puis après c'est abandonné, et vous avez une séquence amusante à un mariage, séquence un peu longue d'ailleurs, des deux apôtres vivants, ces deux amuseurs.
Les deux siffleurs d'oiseaux qui sont réels, ils font des merveilles.
Et c'est vrai que ça... Mais la scène est longue, ça apporte un petit peu de légèreté, ça suscite l'étonnement, l'amusement, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que on a quand même une intrigue qui est en perdition, qui semble dénuée de toute ambition et qui provoque chez le spectateur, je suis d'accord avec Marie-Noël, l'ennui, mais aussi une certaine forme de stupéfaction. Et puis la tonalité, on est dans une morosité qui transforme ce que devrait être une osmose en une terne glose répandue par deux cœurs couverts d'échymose. Les dialogues nourris par cette rhétorique somnambulique donnent au drame des allures fantomatiques, à l'image de ce « tu prends, tu jettes, tu pars ». Oui, on n'est pas chez Montaigne ni La Boétie, on en est loin. Outre ce propos ténu, ce tempo fourbu, la fiction exhale un entêtant parfum de déjà-vu, et pas avec le talent de Claude Lelouch, malheureusement. La Bretagne, ici, c'est un décor, mais un décor pâle, d'une relation sentimentale, ni capiteuse, ni capitale, et desservie par cette constante apathie et ces situations répétitives à l'envi, le couple central, finalement, peine à susciter une quelconque sympathie. Moi, je dirais pour conclure qu'en raison de sa mélancolie accablante, on risque de trouver hors saison funèbre.
Nous passons tout de suite à Cabrini. C'est le biopic de. C'est un film de Alejandro Monteverde avec Cristina Dellana et David Morse. C'est un biopic. C'est le biopic de la première sainte des États-Unis d'Amérique qui a été canonisée en 1946 par le pape Pie XII. Cabrini, c'est le nom de Francesca Cabrini. Et le film raconte l'histoire de cette femme immigrée à New York qui, bien que fragile, va construire une école, un orphelinat, un hôpital. Nous sommes en 1889. Le film est d'une facture très classique. On marche, enfin. Moi, j'ai marché.
Je me suis également laissé dire que vous avez été rejeté de trois ordres différents pour faiblesse de constitution.
Nous pouvons choisir de nous mettre au service de notre faiblesse ou au service de notre but. On ne peut pas faire les deux. Mes sœurs, si nous voulons bâtir un empire d'espérance, nous allons devoir commencer par conquérir New York.
Saleté de Morico. Elle n'arrête pas de débarquer.
Mon papa, il s'est suicidé. Et ma maman, elle est morte du typhus.
En Amérique, la plus grande de toutes les nations, les rats vivent mieux que les enfants de Five Points.
C'est trop dangereux. Pas pour toi.
Prudence, ma mère, ou cet endroit vous mangera toute près.
Les médecins me donnent environ 5 ans.
5 ans, ce serait un véritable miracle.
Eh bien, dans ce cas, je vais retourner au travail. Il nous faut un orphelinat qui soit plus grand, où mes enfants puissent être des enfants.
Ce que j'aimerais, c'est débarrasser ce quartier de vos crimes et de votre crasse immonde. Le maire trouverait une autre façon de vous faire dégager.
Les prochaines élections sont pour bientôt, si je ne me trompe.
Ne me dites pas que je suis en train d'être menacé par une nonne. Faut s'attendre à une violence inouïe en retour.
Fichez-le-camp, Sarital ! Fichez-le-camp !
Je veux le meilleur des hôpitaux, pour les gens comme vous et pour les gens comme moi. Nous devons montrer à l'Amérique que notre peuple tout entier est digne.
Je trouve en effet ce projet excessivement ambitieux. Je dirais même irréaliste.
Nous n'avons pas le choix. Vaincre ou périr. C'est ainsi que nous vivons en Amérique.
Je rappelle que c'est une diffusion Sage et vous savez qu'on peut... Sage, on peut y aller sans crainte du mauvais goût parce que c'est toujours très élégant tout leur catalogue. Dominique.
Oui, bah c'est un récit documenté et édifiant, hein, avec dans une mise en scène très classique, mais grandiose. Pour entrer dans les pas de cette guerrière pacifiste qui se bat contre les institutions, contre le pape et contre les hommes, pour fonder un premier hôpital pour les immigrés italiens. Moi, je ne connaissais pas le personnage de Cabrini. L'interprète est saisissante, elle est très...
Cristiana Dellana.
Très forte, oui. Voilà, c'est un peu long, mais passionné et passionnant pour rendre hommage à cette Saint-Vincent de Paul au féminin. Et italienne, en effet, canonisée en 46. Et il y a une petite réflexion, parce qu'il est certain qu'en filigrane, il y a tout de même un féminisme assez exacerbé, qu'on devine entre les lignes. Donc il y a tout de même un message qui passe. Et puis, un message aussi pour la façon d'accueillir les immigrés. Ça, c'est aussi... Donc on a vraiment deux... On coche les deux cases un petit peu.
Et la menace du mal.
Et voilà.
Qui va se déchaîner.
Et il y a un moment assez drôle, il y a un clin d'œil, parce qu'à un moment, elle est devant le maire de New York, qui va la comprendre, d'ailleurs. Elle lui dit un jour, le maire de New York sera italien. Et en effet, au moment du Trade Center, le maire de New York s'appelait Giuliani. Donc, on peut penser que ça a été un petit peu rajouté. Donc, c'est à la fois un plaidoyer féministe, un plaidoyer pour les gays, et puis le portrait d'une femme passionnante et passionnée qui va au têtu, qui va... une guerrière en, en soutane d'une certaine manière. Mais c'est pas inintéressant, moi j'ai découvert un personnage en tout cas, et voilà, c'est à voir, je crois, oui.
Marie-Noëlle.
Oui, alors nous avions parlé d'Alejandro Monteverde, le cinéaste, à propos de Sound of Freedom, qui racontait la traque de réseaux pédophiles par un agent du FBI, et qui était un, c'était un bon, très bon film qui sensibilisait à ce drame international terrible en passant par les codes du film d'action. Et c'est décidément un réalisateur très intéressant qui a une vraie intelligence de la mise en scène, parce que cette fois-ci, pour raconter l'histoire de Francesca Cabrini, il change complètement de braquet. Il orchestre autour de ce petit bout de femme italienne, fragile mais indomptable, une grande saga à l'américaine, américaine et à l'américaine, de l'émigration, de la misère, de l'ascension sociale et de la réussite entrepreneuriale, parce qu'elle est, on dit qu'elle est la patronne des émigrés, mais elle pourrait être la patronne des entrepreneurs, hein, avec ses, sa création de, d'orphelinat et, d'en,
et d'hôpitaux, de,
d'hôpitaux universels. Et là, on, la mise en scène s'inspire vraiment de ces grandes fresques américaines et de ces thèmes américains constant, c'est l'esprit pionnier, le rêve américain, la conquête du pouvoir, vraiment les grands thèmes du cinéma américain qui sont traités, mais au lieu qu'ils débouchent comme dans la plupart de ces grandes fresques sur l'argent et l'hubris et les luttes de pouvoir et la domination, le succès reste au service du plus pauvre, des plus pauvres. Ça, c'est étonnant. Et en tout cas, on part de ces bas-fonds misérables de cette petite communauté italienne que dépeindront plus tard Scorsese et De Niro, et pour raconter une histoire qui pourrait être celle d'un, d'un futur parrain, une future parraine, de, mais elle, elle aboutit à tout autre chose. Néanmoins, c'est une success story, comme les aiment les Américains, et c'est tout à fait étonnant de faire ça avec une... une petite italienne, très bien jouée en effet, très bien interprétée, avec des plans très expressifs, de beaux décors monumentaux. Souvent, les plans jouent entre sa petitesse et sa fragilité, et puis l'immensité ou la majesté des décors, qu'ils soient new-yorkais ou romains. Et c'est très bien fait. Sur le plan dramatique, il y a une écriture riche avec une grande variété de scènes. Et je voudrais n'en citer qu'une brièvement. Quand elle affronte le conseil d'administration ou, du, ou de la mairie, je ne sais plus, et elle leur rappelle à tous, toute seule, que... il n'y a pas si longtemps, ils étaient eux-mêmes de pauvres émigrés humiliés qu'on traitait de sales juifs, de mangeurs de patates pour les Irlandais,
De polacs pour les
polacs, etc. Et que voilà, ils pourraient s'occuper des petits qui arrivent, qui sont dans la même situation, de façon à leur ouvrir la voie de leur réussite à eux.
Elle, elle impose la générosité dans la réussite américaine. Et ça, c'est assez joli.
Giancarlo Giannini qui joue le pape. C'est assez surprenant. Giannini. C'est la première fois qu'il a un rôle ecclésiastique, je crois.
Bernard.
Ben, contrairement à son précédent film sur lequel moi j'avais beaucoup de réserves, je trouve ça tout à fait réussi. La réalisation est aussi ambitieuse que somptueuse. Vous avez notamment l'image d'un cercueil d'enfant chargé dans une charrette au petit matin, et on voit cette image comme dans un œilleton grossi, gigantesque, et avec des tons blancs et noirs extrêmement élégants. C'est une image magnifique,
très
mais
forte,
au sein d'une réalisation extrêmement choyée. La musique, d'un classicisme gracile et fertile, cadence l'intrigue avec une grâce subtile. Et en plus, le long métrage n'est jamais languide, justement. Il sait être pittoresque et romanesque, tout en restant constamment alerte. En plus, vous avez une flatteuse reconstitution. Et le film est aussi une ode fervente à la détermination et à l'obstination. Oui, le mot obstination, d'ailleurs, est prononcé. Elle fait beaucoup penser au personnage de Liliane Guiche dans La nuit du chasseur, qui est cette femme qui recueille des enfants livrés à eux-mêmes après la crise de 1929. Et elle fait chez elle son petit orphelinat. Elle fait quand même, bon, elle, ce n'est pas chez elle, mais elle fait penser au personnage de Liliane Guiche. Le maire de New York, je voulais le citer, c'est John Lithgow. Ouais. Qui a toujours été le triste sire, le méchant, chez Brian De Palma, dans plusieurs films, notamment Obsession, notamment l'Esprit de Cain. Alors, bien sûr, il y a un anachronisme de dialogue, c'est non négociable, je ne suis pas sûr qu'on dise ça au XXe siècle. Le rythme de la dernière partie se ralentit, discrètement peut-être à cause de dialogues bouffis, très nombreux et fournis. Le portrait de l'Amérique, je l'ai trouvé à titre personnel un petit peu caricatural, surtout, bien sûr qu'il y avait beaucoup de racisme à l'époque, mais ce n'était pas que ça. Et quand on voit le film, on a l'impression que c'est vraiment une nation essentiellement xénophobe, alors que c'est bien au-delà de ça, c'est bien plus complexe que ça.
C'est une concurrence.
C'est, excusez-moi.
C'est une concurrence.
Oui, mais en fait,
c'est une façon d'exprimer la concurrence.
Oui, mais c'est, je trouve que c'est un petit peu limité. Mmh. Une dernière chose, l'épisode de l'incendie, on aurait voulu en savoir un peu plus. Il y a quelques allusions à la fin, justement, quelques précisions n'eussent pas été superfétatoires. Il convient donc de prêter l'oreille ici à la bonne sœur Cabrini, car on aurait tort de jouer à ni oui ni non.
Alors nous passons maintenant à Karaoké de Stéphane Ben Lassen, c'est ça, avec Michel Larocque, Claudia Tagbo qui est formidable et David Mora. Alors c'est quand une chanteuse d'opéra en perte de vitesse rencontre une chanteuse de karaoké ambitieuse, ben cela donne un film un peu convenu, avec des petits moments d'énergie quand même. On y va.
Le chant, c'est ma passion.
Merci.
Quoi, ça va bien?
Je dirais plutôt que vous avez une voix un peu difficile.
Je ne peux pas associer le nom d'une diva à celui de karaoké, ça ne marche pas. Tu es mise à pied.
Votre voix, ma présence, on va tout déchirer.
J'ai envie de dire bonjour à n'importe qui.
Vous êtes nuls, nuls. Je vous préviens, à partir de maintenant, c'est Nagui. Matin, midi et soir, et je bloque ses paroles. Voilà,
stop. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais c'est pas possible, votre posture. Vous serrez le popo, et maintenant, vous laissez sortir l'air.
Pao.
Fatou.
On a complètement 3 semaines. Il faut tout savoir sur le bout des doigts.
Marie-Noël, vous avez 1 minute 30.
C'est une petite comédie pas très bonne, mal écrite. Le début est absolument, alors c'est le contraire de Hors Saison, le début est absolument calamiteux. Vraiment très mal écrit, on n'y croit pas une seconde, la diva, un scandale. C'est ridicule. Et puis, peu à peu, ce qui prend, pour moi, c'est le duo, le tandem Michel Larocque et Claudia Tagbo, parce que ces deux femmes ont un charme, une sincérité, une immédiateté, une spontanéité, et tout les oppose, mais tout les réunit. Et à la fin, j'ai trouvé qu'il y avait un final charmant avec la chanson « J'ai un problème », c'est que qu'elles chantent toutes les deux, et elles réussissent, ces deux femmes, à se dire qu'elles s'aiment sans qu'il y ait la moindre équivoque, la moindre ambiguïté. C'est une évidence extrêmement jolie. Et
c'est le vrai moment d'énergie.
Oui.
Bernard ?
Oui, moi je dirais qu'il y a quand même...
Quelques dialogues qui font rire, quelques répliques bien senties, qui font vraiment rire. Mmh. La confrontation des deux mondes n'est quand même pas si mal montrée que cela. Elle dit elle-même à un moment donné, je ne suis pas à ma place. Les deux interprètes, je suis d'accord avec Marie-Noël, ont un fier abattage. Et c'est elle qui donne de la dynamique et un souffle au film. Et les numéros chantés, par le tandem, réussissent à se démarquer grâce à leur vitalité et à leur enthousiasme coloré. Maintenant, l'intensité comme l'originalité restent un petit peu enrouées. Ça, c'est truffé d'invraisemblance. La fin avec les cerisiers, alors qu'elles attendent un résultat et elles ne vont pas y assister, ça c'est quand même totalement invraisemblable. Et la réalisation est quand même victime d'une paresse sans rémission. Moi, je dirais que ces deux femmes enfilent le costume de chanteuse, mais le film n'a sans doute pas la combinaison du coffre.
Voilà le générique qui est lancé. Vous vouliez nous parler de Bis Repetita.
Oui, bon, on peut s'en passer. Hein. C'est un petit film sur une professeure très libérale et un peu branchée, et des élèves qui vont en voyage en Italie. Et puis, il y a une petite histoire d'amour qui est en filigrane. Ce tout petit, ça donne un rôle à Louise Bourgoin qu'on n'avait pas eu depuis longtemps.
Merci. Merci à tous les trois. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, à François Dieudonné, Philippe Alpech pour la réussite de notre rendez-vous. Demain, c'est jeudi saint, nous parlerons de la messe, évidemment, avec Louis-Marie Chauvet pour son livre « La messe autrement dit » chez Salvator. Et puis, nous quatre, nous nous retrouverons après Pâques.
À nous quatre cardinales.
Nous avons parlé aujourd'hui de Hors Saison, de Cobrini et de Karaoké, et puis aussi de Bis Repetita. Bon Tridome Pascal à vous tous, je vous embrasse.